vous écoutez RFI, la radio du monde. Bienvenue, il est 3h à Paris, 2h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une en Syrie, 745 civils alaouites tués en 3 jours par les forces de sécurité et leurs alliés. On fait le point en début de journal. Mobilisation partout dans le monde ce samedi 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. En Afghanistan, une association offre des cours scolaires aux filles et femmes afghanes qui sont condamnées à vivre cloîtrées chez elles depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021. Dans ce journal également, Donald Trump coupe les subventions de l'université de Columbia. Et puis le ministre de la Justice français, Gérald Darmanin, est en visite au Maroc. Les précisions de cette rencontre en fin de journal. En Syrie, les autorités veulent ramener l'ordre après la mort de 745 civils alaouites en 3 jours. Des civils tués par les forces de sécurité et leurs alliés dans la région de Latakié depuis jeudi. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le président syrien Ahmad al-Shara affirme sa détermination à désarmer les factions impliquées. Les précisions de notre correspondant Mohamed Erami à Damas.
La situation sécuritaire reste instable dans les villes côtières syriennes. Elles ont été requalifiées en zone militaire par les autorités gouvernementales compétentes. Leur accès est désormais interdit sans autorisation de l'armée. Les commandements des opérations militaires ont également déclaré avoir pris le contrôle total des villes de Latakié et Tartous, tout en poursuivant les combattants qui continuent de mener des attaques sporadiques contre les forces de sécurité déployées sur place, ainsi que contre les bases militaires, les postes de police et les hôpitaux. Le nombre exact de morts résultant des opérations militaires reste flou et toutes les estimations proviennent de rapports d'organisations de défense des droits humains. J'ai tenté de contacter la direction de la sécurité de Latakié par téléphone, mais ils n'ont pas fourni de chiffres officiels sur le bilan des victimes. À Damas, on observe une augmentation notable des patrouilles et des points de contrôle sécuritaires dans les principales artères de la ville. À ces barrages, l'identité des personnes interceptées est vérifiée et leurs véhicules fouillés. Mohamed Erami, Damas. RFI.
Le plan arabe pour la reconstruction de Gaza adopté par l'Organisation de la coopération islamique, plan également soutenu par des pays européens, une réponse au projet de Donald Trump qui veut prendre le contrôle du territoire palestinien et expulser ses habitants. Pendant ce temps, Israël est d'accord pour discuter avec les médiateurs internationaux de la poursuite de la trêve avec le Hamas. L'État hébreu va envoyer une délégation ce lundi à Doha. De son côté, le Hamas demande l'ouverture immédiate de négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu. Direction l'Afghanistan, le seul pays au monde qui interdit l'école secondaire et l'université aux filles. Ce samedi, c'était la journée internationale des droits des femmes, des droits qui sont aujourd'hui en danger de mort en Afghanistan, d'après la sociologue et historienne Carol Mann. Avec son association FEMAID, elle offre des cours scolaires aux filles et femmes afghanes qui sont condamnées à vivre cloîtrées chez elles depuis le retour des talibans au pouvoir. Heiko Schmidt.
Les talibans ont chassé les filles et les femmes des écoles, des universités et même des parcs publics, mais cachées derrière des portes closes, elles continuent de tenir tête au régime qui leur a déclaré la guerre. Carol Mann, fondatrice de l'association Femmes Aide, les soutient via son réseau d'écoles clandestines.
Les femmes afghanes sont des résistantes. Les femmes résistent par l'éducation. Je sais par le réseau d'écoles qu'on a mis en place avec mon association Femmes Aide, les enseignantes, les élèves, celles qui bravent tous les dangers pour venir à des cours. Elles risquent énormément, elles peuvent se faire arrêter, leurs familles peuvent être importunées, ça arrive. Les enseignantes en particulier, parce qu'elles sont dans un local, souvent doivent déménager.
Coupure d'électricité, manque de téléphone et d'ordinateur, les problèmes sont légion. Mais le pire, c'est l'indifférence de la communauté internationale, estime Carol Mann.
C'est une guerre totale contre les femmes. J'explose. Je suis outrée par le silence des démocrates. Je suis outrée par un silence, une complaisance ou une résignation qui sont devenues quasiment universelles.
La sociologue ne compte pourtant pas baisser les bras. Son association Femmes Aide soutient aujourd'hui 3000 collégiennes et lycéennes afghanes.
Et face à cette situation désastreuse, l'ONU dénonce un apartheid de genre. Direction l'Ukraine désormais. La Russie revendique la reprise de 3 villages dans la région de Koursk. Une contre-offensive russe qui prend de l'ampleur, d'autant plus que Washington a annoncé la fin des livraisons d'armes à Kiev et la suspension de leur collaboration en matière de renseignement. Téhéran fustige une politique d'intimidation de la part des Américains. Ce vendredi, Donald Trump assurait avoir écrit à l'Iran pour proposer des négociations sur le programme nucléaire iranien, tout en menaçant Téhéran s'en prendre militairement si le pays ne négociait pas son programme nucléaire. Retour des hostilités, car en 2018, Donald Trump s'était retiré unilatéralement d'un accord international sur le nucléaire. Un accord que son pays avait pourtant conclu 3 ans plus tôt avec Téhéran. En représailles, l'Iran s'est progressivement détaché de ses engagements et a accéléré ses activités nucléaires. Donald Trump continue de couper les subventions. Ce vendredi, le président américain a décidé de supprimer avec effet immédiat une subvention de 400 millions de dollars à l'université privée new-yorkaise de Columbia. C'est l'une des plus prestigieuses du pays. Elle est accusée d'inaction face à des actes antisémites. Et cette annonce pourrait bien être suivie par d'autres mesures, Romain Le Maresquier.
Certes, si l'on s'en tient aux chiffres, 400 millions de dollars en moins alors que les revenus de l'université de Columbia étaient de plus de 6,5 milliards de dollars en 2024, cela ne semble pas mettre en péril la survie de cette université. Mais cette décision va avoir un impact non seulement pour les professeurs et les étudiants, mais également pour tous ceux qui bénéficient de la recherche essentielle sur des maladies et d'autres problèmes de santé publique, dénonce Lynn Pascarella, la présidente de l'Association américaine des universités. Donald Trump, qui n'a eu de cesse de dénoncer durant la campagne électorale l'inaction de certaines universités face aux étudiants pro-palestiniens, a donc mis sa menace à exécution, et le choix de s'en prendre à l'université de Columbia n'est pas anodin puisque cette institution était devenue l'épicentre des manifestations pro-palestiniennes. La présidente par intérim de Columbia, dans un courriel adressé vendredi soir à l'ensemble de l'université, tente de tempérer et se dit prête à travailler avec le gouvernement fédéral pour répondre à ses préoccupations légitimes. Reste que cette annonce de Donald Trump démontre que la Maison-Blanche compte bien politiser l'enseignement, estime la présidente de l'Association américaine des universités, sachant que Donald Trump a réitéré ses menaces cette semaine, promettant de couper les fonds à toute université qui autoriserait des manifestations illégales.
Au Gabon, c'était la course contre la montre pour les candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. La date limite de dépôt de dossier, c'était ce samedi à 17h, temps universel. Le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, a été le premier à déposer sa candidature. Discret ces derniers jours, l'ancien Premier ministre, encadré par son état-major, a aussi déposé son dossier. Autre candidat, le syndicaliste Jean-Rémi Yama, cette figure de la société civile gabonaise, a passé 18 mois en prison sous le régime d'Ali Bongo. Pierre Clavier-Maganga Moussavou a aussi déposé son dossier. Au moins 4 femmes ont fait acte de candidature, parmi elles Zenaba Chening et Marlène Essola Efoutaman, toutes les deux candidates indépendantes. Direction le Maroc, où le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, va rencontrer son homologue à Rabat ce dimanche. Et ce, alors que la coopération judiciaire entre les deux pays est au beau fixe. Les précisions de François Hume Ferkataji à Casablanca.
Signe supplémentaire du réchauffement diplomatique entre la France et le Royaume du Maroc, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, va rencontrer son homologue à Rabat, Abdelatif Wabi. Les deux hommes devraient évoquer ensemble les questions de lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé dans un contexte de renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays. Ces dernières semaines ont été marquées par des succès à cet égard. À la fin du mois dernier, deux hommes, soupçonnés d'être les complices du narcotrafiquant Mohamed Amra, ont été interpellés à Marrakech sur demande de la France. Ils auraient participé à mettre sur pied l'opération qui a mené à l'évasion de Mohamed Amra et qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires français au mois de mai dernier. Dans la même veine, en janvier dernier, celui que Gérald Darmanin considère comme l'un des plus gros narcotrafiquants de France, le dénommé Félix Bingui, dit le chat, chef présumé du clan Yoda, a été extradé vers la France 10 mois après son arrestation au Maroc. Le sujet de la délivrance des laissez-passer consulaires, documents permettant à la France d'expulser les immigrés illégaux ne disposant pas de passeport, pourrait aussi être abordé. Au mois d'octobre dernier, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait annoncé à Rabat qu'un accord avait été trouvé entre la France et le Maroc pour, je cite, « raccourcir les délais d'expulsion des personnes sous OQTF ». François Mferkataji, Casablanca, RFI.
Et du sport avant de fermer ce journal, en tennis, Novak Djokovic éliminé d'entrée au tournoi d'Indian Wells. Défaite du Serbe face au Néerlandais Botic 22 Anschloup. Le tableau masculin perd un nouveau favori après l'élimination précoce de l'Allemand Alexander Zverev. En rugby, le 15 de France s'impose 42 à 27 contre l'Irlande malgré la blessure d'Antoine Dupont. L'équipe de France peut gagner le tournoi des Six Nations si elle gagne contre l'Écosse samedi prochain. Et puis en football, l'Olympique de Marseille se fait surprendre par Lens dans le temps additionnel. Victoire 1-0 des 100 et or. Le Paris Saint-Germain gagne 4 buts à 1 face à Rennes. Et puis Lille récolte les 3 points après sa victoire 1-0 contre Montpellier.